Eh bien, allons-y, bonjour. Eh bien, on va parler Suisse. Et quand c'est un Belge qui mène un débat sur la Suisse, ça risque de faire quelques petites étincelles à l'image de ces deux anthologies. Le titre officiel, c'est « En Suisse, il n'y a pas que des banques ». Il y a aussi des anthologies. Alors, coup sur coup, en effet, enfin un an de distance, il y a eu « Défricheurs d'imaginaire ». Anthologie historique de science-fiction suisse romande, sous la direction de Jean-François Thomas, paru chez Cam Poche en mars 2009, 18 textes, qui vont de 1884 à 2004. Et puis, au mois d'avril de cette année, Dimension Suisse, une anto de SF et de fantastique romande. Les anthologies sont Vincent Gessler, là, Gessler, je parle français, moi. Et Anthony Valla. Et c'est paru chez Rivière Blanche. 13 textes de science-fiction d'aujourd'hui. Alors, on savait évidemment qu'il y avait de l'intérêt pour la SF et les mondes de l'imaginaire en Suisse. Et Jean-François Thomas le rappelle dans sa préface. D'abord, à cause, ou plutôt grâce à Pierre Versin, qui a écrit cette énorme encyclopédie de l'utopie des voyages extraordinaires et de la science-fiction, qui est parue en 1972, je continue à parler belge, à l'âge d'homme, à Lausanne, et qui est 3,2 kg de savoir. Et les collections de Pierre Versin ont été données à la ville d'Yverdon, qui en a fait la maison d'ailleurs, musée-bibliothèque de science-fiction, qui est ouverte depuis 1976. Et puis, Jean-François Thomas rappelle qu'il y a eu Hubert Mathey, qui a publié sa thèse défendue à l'Université de Lausanne en 1915, qui s'appelle « Essai sur le merveilleux dans la littérature française depuis 1800, contribution à l'étude d'un genre », et c'est la première thèse jamais consacrée à la science-fiction. Alors Jean-François Thomas, autour de ces trois, en plus de ces trois pierres angulaires de la maison suisse de la science-fiction, a voulu en ériger une quatrième, une anto historique. Alors comment l'idée et la concrétisation de ce couteau suisse de la SF est-elle née? On lui demande à Jean-François Thomas. Je le présente quand même. C'est un spécialiste en littérature de l'imaginaire. Il a été critique pendant longtemps dans le journal 24 heures de Lausanne. Il est novelliste, il a écrit une dizaine de nouvelles, parues dans des anthologies, et il est président du conseil de fondation de la maison d'ailleurs. Jean-François.
Merci. Alors, comment l'idée est née? En fait, il y a très longtemps, j'ai fait des études de lettres, et puis j'avais conclu mes études de lettres par un mémoire consacré à la science-fiction suisse. Donc, c'est suite à ma rencontre avec Pierre Versin que j'ai été captivé par la science-fiction, enfin que je me suis rendu compte que c'est ça que j'aimais comme littérature. Ensuite de quoi, nous avons créé un petit fanzine à l'époque, et puis depuis ce temps-là, j'ai plus arrêté de m'intéresser aux littératures de l'imaginaire. Et puis, comme j'avais déjà la connaissance de cette histoire de la science-fiction, vu que je l'avais étudiée de près, ça avait fait pas mal de recherches, je me suis dit, tiens, en ce moment, qu'est-ce qui se passe en Suisse? Il y a toute une jeune génération d'auteurs qui arrive, qui commence à écrire et à publier. La preuve, vous la voyez ici avec tous ces auteurs alignés autour de cette table. Pour la première fois, en fait, j'ai senti comme un mouvement d'ensemble, un mouvement de fond en Suisse, alors que jusqu'à présent, c'était pas le cas. On était des gens isolés. Il y avait Georges Ponchard, François Rouillet, Pascal Ducommun. Enfin bref, on était pas très nombreux. On avait de la peine à faire un mouvement d'ensemble, je dirais. Puis je me suis dit, c'est le moment de faire peut-être quelque chose d'historique et de montrer à tous ces jeunes gens, pour moi c'est des jeunes gens évidemment, que la science-fiction existe déjà en Suisse depuis un bon nombre d'années. Et je suis allé chercher des textes, j'ai d'abord contacté un éditeur, il se trouve que je le connais un peu, puis j'y ai demandé, c'est un éditeur littéraire suisse, j'y ai demandé si ça l'intéressait, un livre, une anthologie de science-fiction. Je m'attendais à ce qu'il refuse poliment, pour être très concret. Et puis il m'a dit au contraire, non, vas-y, fais-la. Puis, alors, j'étais surpris moi-même. Puis, je me suis dit, bon, maintenant que j'ai dit que je le faisais, ben, je vais le faire. Donc, voilà. J'ai voulu intégrer dans ce livre uniquement des nouvelles complètes et pas des extraits d'œuvres, parce qu'alors, on en trouve beaucoup d'œuvres importantes ou moins importantes. Et puis, ben, voilà, après 2 ans de travail, ça aboutit à ce livre.
Et puis, un an plus tard, un deuxième. Alors là, je me tourne vers la droite. Et des nouvelles, là, d'aujourd'hui. J'aimerais bien que les deux anthologistes nous disent comment ils ont procédé pour les choisir. Alors, présentation d'abord de Vincent Gessler, enseignant ?
Pas du tout, non.
Plus du tout, alors.
On peut confondre.
La formation d'adulte. D'accord. Alors, il a fait des nouvelles. Un roman maintenant, qui s'appelle Sinis et qui vient de paraître chez La Talente. Et Anthony Valla, divers textes, nouvelles aussi. Enseignant lui. Ah, quand même. Voilà. Alors, l'un ou l'autre, à qui a commencé, comment c'est arrivé votre idée, commune, pas commune, vous êtes rencontrés au milieu ou bien au début de l'aventure?
Alors, le projet, à l'origine, émane de François Rouillet, qui est tout au bout de la table. Alors, je sais pas si tu veux dire un mot, non? D'accord. Donc, à l'origine, le projet émanait de François, qui avait contacté différents éditeurs et qui proposait de faire une anthologie de textes suisses romands d'aujourd'hui. Et pour diverses raisons, le projet avait pas pu être mené à terme. Et donc, moi, je m'étais proposé pour reprendre un petit peu le flambeau. Et puis assez rapidement, Anthony a proposé de s'associer à ça. Et deux énergies valent mieux qu'une. Et d'ailleurs, heureusement qu'on a pu le faire à deux. On a lancé un appel à texte fin 2008. Et puis, essentiellement, ça s'est fait sur Internet par le bouche à oreille. Bon, la Suisse romande, c'est pas bien grand. Et on a reçu une quarantaine de textes. On a donc fait un appel à texte qui était anonyme, vu que aussi ça, il n'y avait pas beaucoup de gens, qu'on se connaissait la plupart. Fallait pas non plus que ce soit du copinage ou que les auteurs se sentent mal à l'aise ou que nous sentions mal à l'aise. Donc tout était anonymisé et on a pu faire un choix sur des critères qui sont annoncés en préface. Donc à la fois des critères de genre, des critères, des exigences de forme, et aussi nos goûts. Hein, on peut pas tellement faire l'économie. Et c'était particulièrement intéressant de s'inscrire à la suite du travail de Jean-François, puisque on avait un portrait un peu historique, une stratigraphie de tous ces textes de science-fiction en Suisse. Et puis nous, on a pu s'insérer et faire une coupe, je crois qu'on dit diachronique pour le travail sur le long terme et synchronique pour le travail sur une tranche du présent ou l'inverse. Et donc, on a fait ce travail-là plutôt sur ce qui se fait aujourd'hui. Et donc, on a pu ainsi réunir 13 textes. Une bonne partie des auteurs ont pu être présents, heureusement. Et je vais peut-être laisser Anthony peut-être rajouter quelques mots, sans doute j'oublie plein de choses.
Une fois qu'on a eu sélectionné les 13 textes, en fait, on a fait tout un travail après d'anthologie, c'est-à-dire qu'on a fait retravailler les auteurs, on a fait retravailler les textes aux auteurs, en fait, où on a fait un travail en fait de d'édition quelque part, en reprenant leurs textes, en leur montrant un petit peu ce qu'il y avait, enfin, en essayant un peu d'améliorer leur texte, en fait. Ils étaient déjà très bien à la base, mais enfin, on a fait ce travail d'anthologiste qui était aussi une partie intéressante, où on les rencontrait, on discutait. Enfin, c'était aussi une partie très intéressante du travail, en fait. Ce qui, moi, en tout cas, personnellement, m'a motivé au départ pour me lancer dans cette aventure. C'était une des motivations, c'était effectivement de voir ce travail un peu d'éditeur, de voir un peu comment ça se passe, d'être de l'autre côté de la barrière et d'être anthologiste, en fait. Voilà.
Je vais me tourner vers François Rouillet. François Rouillet a l'avantage ici d'être dans le sommaire de l'anthologie de Jean-François Thomas et dans le sommaire de la nouvelle. Donc il fait en même temps partie de l'histoire et partie du présent. Pourquoi vous avez répondu à cet appel de ces deux jeunes, vous qui êtes déjà bien connu dans le milieu?
En fait, c'est simple, c'est qu'un anthologiste se publie pas lui-même. Alors j'ai trouvé deux pigeons pour... pour faire une anthologie, pour que je puisse publier un texte. Enfin, ça, c'est ce que peut-être diront certains, mais en fait, l'aventure étant lancée, moi, j'ai dû abandonner le projet pour des raisons principalement de surmenage. J'étais complètement professionnellement incapable de le poursuivre. Et puis, j'ai remis les premiers textes qui étaient parvenus à l'équipe suivante, et puis je m'en suis plus occupé, sauf que qu'à un certain moment, je me suis demandé si j'allais pas aussi participer, et on m'a demandé aussi si je voulais participer au texte. On aurait bien voulu que Georges Panchard, qui est quand même un auteur marquant dans la science-fiction suisse, participe aussi. Lui n'a pas eu le temps de produire un texte, mais voilà un petit peu comment ça. Je me suis raccroché un petit peu à l'aventure pour être de l'équipe, parce que finalement, il y a longtemps que je sévis sous divers masques et activités plus ou moins avouables dans le milieu de la science-fiction suisse, et puis je me suis senti obligé de me raccrocher à ce wagon que j'avais lancé au départ. Voilà, c'était un petit peu ça, quoi.
Sébastien Sévé, vous êtes parmi les plus jeunes ici. Voir son texte publié dans une anthologie suisse, ça fait quoi?
C'était vraiment une super aventure de pouvoir publier des textes avec des gens qu'on fréquente souvent. Je ne sais pas si on en a parlé, on se retrouve une fois ou deux fois par mois pour les mercredis de la science-fiction. Donc c'est vraiment un groupe assez soudé, des gens qui écrivent, qui se sont critiqués. Il y a eu le Crêpe avec Lucas, donc des gens qui ont formé un groupe d'écriture. Donc il y avait vraiment plein d'initiatives d'écriture en Suisse romande. Et donc là, c'est vraiment, je trouve, un bel objet, un beau résultat de cet effort collectif, finalement, même si l'écriture, c'est solitaire. Je pense que c'est vraiment un résultat collectif de toute cette communauté qu'on a pu développer en Suisse romande. Donc ça faisait vraiment plaisir de rejoindre.
On va donner la parole à une dame, Laurence. Vous avez déjà publié des romans, vous êtes non? Et Quantica, non? Quantica, c'est pas... Il n'est pas publié, voilà. Vous avez déjà écrit des romans. Vous faites de l'illustration aussi, des nouvelles. Alors, ce résultat, ça vous paraît évidemment satisfaisant, mais quand vous voyez, vous avez lu, je suppose, des nouvelles des autres aussi, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait comme une école de la science-fiction suisse?
Alors là, c'est une bonne question, parce que je crois que séparément, dont nous on se retrouve ces mercredis de la science-fiction, mais je crois que tous séparément, c'est parti, on écrit tous, je crois, depuis tout petit, en fait. En ce qui me concerne, moi j'ai écrit de la science-fiction, commencé à 11 ans, et je pense que les auteurs autour de cette table ont probablement commencé assez jeunes aussi, donc en fait c'est plus un rassemblement qui s'est fait, des gens qui ont cet engouement pour la science-fiction depuis de longues années, et ce rassemblement, ces mercredis de la SF, ces anthologies permettent de nous retrouver, ce qui est génial parce qu'on a un intérêt commun, et ça nous permet aussi de pouvoir échanger, discuter de nos textes, se critiquer, ce qui est vraiment très très bien, ça nous fait tous progresser en fait. Donc je pense que c'est plutôt... Je pense qu'il y a effectivement peut-être un engouement pour la science-fiction en Suisse, parce qu'il y a énormément de gens qui écrivent de la science-fiction. Maintenant, de quoi ça vient mystère. Mais en tout cas, voilà. Je ne sais pas si Lucas... Il avait l'air de vouloir rajouter quelque chose.
Non, mais quoi, c'est dû à la maison d'ailleurs, par exemple, qui suscite des tas de vocations?
Je sais. Alors, probablement pour certains, oui. Je pense qu'il y a un petit peu aussi de toutes sortes de... Enfin, en ce qui me concerne, c'est toujours été la science-fiction. Je crois que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Donc, mais effectivement, le fait qu'il y ait la maison d'ailleurs, le fait qu'il y ait toutes ces choses, on peut se retrouver. Il y a des expositions, il y a eu l'Expo Lovecraft. Effectivement, je pense que ça nous permet aussi de nous retrouver sur un sujet qu'on aime tous particulièrement. Donc il y a la science-fiction ou le fantastique.
Est-ce que dans cette anthologie d'aujourd'hui, il y a des thèmes communs, Vincent ou Anthony?
Juste un petit mot sur la question d'avant quand même. Oui. Moi je crois pas qu'il y ait vraiment école, hein. La Suisse romande c'est beaucoup trop petit, c'est noyé dans le monde francophone, la plupart des publications elles se font au Québec ou en France ou en Belgique ou en Suisse, et il y a pas mal d'auteurs en devenir ou qui commencent à publier, mais c'est relativement à l'étroitesse du pays et puis au peu de gens qu'il y a. Mais c'est pas assez significatif à mon sens pour parler d'une véritable école. On a tous été nourris à des sources différentes, on est tous assez différents et puis on n'a pas de projet vraiment. Chacun, comme il a été dit, explore des voies qui sont quand même personnelles. Après, il y a un hasard heureux qui fait qu'il y a une jeune génération maintenant qui s'y intéresse, qui va vers ça et puis qui est productive. Alors est-ce qu'on peut parler d'école? Ça, je sais pas. Et donc pour votre autre question, les thèmes, c'est la même réponse. en variant un petit peu les arguments, c'est-à-dire qu'au fond, si on écrit de la science-fiction, on peut difficilement faire l'économie de toutes les problématiques de société, de science, les grosses références qu'on peut voir dans tous les arts, qui nous influencent aussi, les problématiques plus ou moins contemporaines. Enfin, on fait des déclinaisons là-dessus, et toujours avec ce qu'on est. Donc, je crois pas qu'il y a des thèmes spécifiques. Après, peut-être que Jean-François a vu des spécificités plus liées à la Suisse et à sa tradition historique. Moi, j'ai pas le sentiment qu'on puisse en parler pour cette anthologie.
Oui, alors, par rapport à cette anthologie, moi, j'ai la même impression que vous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de thème commun. En revanche, c'est vrai que dans la science-fiction suisse, historiquement, il y a une propension à écrire des récits catastrophes, les lendemains vont être terribles. C'est un peu lié à l'insularité de la Suisse, qui fait pas partie de l'Europe, je vous le rappelle. Enfin, vous le savez. Enfin, bref, il y a par exemple dans l'anthologie une nouvelle que moi j'aime personnellement beaucoup, c'est celle de, comment est-ce qu'il s'appelle déjà, c'est un écrivain littéraire, c'est pas, attends voir, je vais y arriver, Bernard Comeau, voilà, ça s'appelle Château d'eau. La Suisse décide de couper l'eau pour tous ses voisins, parce qu'il y a 4 grands fleuves européens qui prennent naissance en Suisse. Alors ils entourent la Suisse d'un immense mur pour garder l'eau à l'intérieur, et puis qu'est-ce qui se passe, le mur il doit s'élever de plus en plus, et la Suisse s'inonde peu à peu. C'est assez marrant comme fable, mais c'est un peu ça, quoi. C'est aussi, ouais, ouais. Complètement. Donc surtout une propension de récit catastrophe ou de d'anti-utopie, quoi.
Mais ici, dans cette anthologie, des récits catastrophes, je ne crois pas qu'il y en ait, Vincent et Anthony. Par contre, il y a pas mal de récits qui tournent autour de la science, de la réalité augmentée, de
il y a un récit catastrophe, en tout cas.
La réalité, c'est celle de Sébastien, non, de Moreno, pardon. Non, c'est Sébastien au-dessus de Shibuya. Chez Luca Moreno, quand même, c'est...
Juste pour dire qu'il y a quand même un récit catastrophe, il y a le récit de Laurence Sunner où on est quand même dans une apocalypse sans retour.
Oui, sauf que
avec homéostasie.
Oui, mais c'est pas un récit de catastrophe. On est là.
Alors on la est parole à Laurence.
En train de...
C'est quand même juste la destruction de toute vie sur la planète.
Mais ce n'est pas traité comme un récit catastrophe. Il n'y a pas de cataclysme. Au contraire, c'est avant. Puisqu'on engage dans cette nouvelle une psycho pour essayer de rentrer en cybernergie avec la... J'essaie de montrer que j'ai quand même lu. Hein. Pour rentrer en cybernergie avec l'esprit de Gaïa, donc l'esprit de la Terre.
Voilà, qui veut, en effet... Qui n'existe pas, donc. Hein. L'esprit de Gaïa n'existe pas. Hein. C'est...
Non, mais il y a autre chose. Mais
ça, c'est nihiliste, quand même. Hein.
Il y a autre chose, et c'est vrai que nous sommes voués à disparaître, d'après votre nouvelle.
Oui, absolument. Mais il n'y a absolument aucune connotation de morale ou rien du tout là-dedans.
Alors, chez François Rouillet aussi, il y a Rémugle en eurocratie, où là, c'est la simulation pour essayer de faire réélire une espèce de tyran. Toujours assez drôle, comme tout d'habitude chez François, il y a toujours cette pointe d'ironie et d'humour, même si ici, en fin de compte, l'histoire est quand même assez terrible, puisqu'on on veut faire réélire un salaud en employant des moyens d'ordinateur, de simulation, etc. Et Luca Moreno, lui, parle d'intelligence artificielle, de mort et de mémoire retrouvée. Expliquez-nous un peu votre nouvelle.
Alors, en fait, je vais pas l'expliquer, parce que sinon je vais dévoiler direct d'entrée de jeu le fin mot de l'histoire. C'est quand même une nouvelle qui est pas mal basée sur le dénouement, un dénouement un peu inattendu. En fait, à la base, j'avais pas du tout envie d'écrire une nouvelle de science-fiction. Je voulais parler d'un personnage... qui avait une relation extrêmement difficile avec son père, et puis qui est très violente au niveau physique, au niveau psychologique, et qui d'une certaine manière arrivait à en découdre avec son passé, et puis avec le personnage de son père, comment il s'y prenait. Alors il arrivait en tant qu'adulte à se glisser dans la peau de l'enfant qu'il avait été, et puis il investissait ce corps, il lui injectait de l'énergie psychique et physique, de façon à ce que l'enfant puisse être en mesure de répondre aux agressions du père, là encore psychologique et physique. Puis je me suis, après la question que je me suis posée, c'est comment est-ce que je fais ça? Soit je fais un roman de fantastique, et du coup, ouais, pourquoi pas, mais j'étais pas vraiment convaincu, je trouvais ça un petit peu trop banal. Et puis, comme ça arrive souvent dans les récits de science-fiction, et pas que d'ailleurs, c'est difficile à faire des choses originales, donc c'est souvent deux idées a priori banales qui se mettent ensemble, tout à coup une troisième qui gravite autour, et tout à coup on a cette sensation que Eureka, là ça pourrait être pas mal, ça pourrait être original. Donc je me suis dit, je vais rajouter l'aspect de voyage dans le temps, ce qui colle parfaitement vu que c'est l'adulte qui retourne dans son corps d'enfant. Et puis, c'est une période où je lisais pas mal de choses à propos de la post-singularité. Tout à coup, voilà, ces différents éléments se sont mis en place. Et c'est pour des raisons strictement narratives que j'ai placé mes personnages dans un futur relativement proche, où la post-singularité avait eu lieu. C'était pas un choix de départ, quoi. Donc voilà.
Est-ce que Daniel Aladef pourrait aussi nous donner quelques idées de sa nouvelle?
Oui. Je suis au bout du câble. Un choix à l'américaine. Alors, moi, j'ai plutôt une attirance pour le fantastique, et j'avais pas noté que c'était aussi inclus dans l'anthologie, donc je me suis dit, il faut que je maquille ma nouvelle en science-fiction. Donc, il y a effectivement une machine. Donc, ça se passe dans le passé, ça se passe en 1907, et il y a une machine futuriste. Ou rétro-futuriste, et puis c'est vu par les yeux du personnage principal, donc ça, la vision est plutôt fantastique avec le regard de l'époque, mais sur quelque chose qui est, voilà, qui est de l'ordre du scientifique ou du scientifique merveilleux, comme on pourrait le dire après.
Sylvain Demierre n'a pas encore parlé, alors on va lui laisser la parole. Lui, il a illustré la couverture. Pourtant, vous écrivez aussi des nouvelles.
Oui, alors plus tellement, j'illustre plus que j'écris maintenant.
alors en fait, c'est François... toujours un défi, je crois, d'illustrer une anthologie.
Oui,
qu'est-ce
alors
que prend comme thème.
Tout à fait. Alors en fait, c'est François Rouillet qui m'a branché sur le projet assez tôt. Je savais que ça allait être une réunion de textes écrits par des auteurs helvétiques. Donc, il fallait que je trouve une dimension helvétique dans mon illustration, quelque chose qui soit un petit peu d'ordre symbolique sans sombrer dans le cliché. Donc j'ai essayé de faire, enfin vous voyez ce qu'il y a sur la couverture, une espèce de Suisse un peu coffre-fort, mais en même temps avec des petits modules un petit peu étranges qui s'en échappent et puis qui essaiment dans un monde qu'on devine mais dont on ne connaît pas grand-chose. Puis voilà, je me suis amusé un petit peu là-dessus.
Et ces modules, ce sont tous ces écrivains.
Voilà, et on peut voir à la fenêtre supérieure gauche pour le bâtiment, enfin droite pour le bâtiment, à gauche du bouquin, les deux anthologistes qui regardent partir ces modules. Mais ça, c'était prévisionnel.
Mais très petits.
À l'époque, je savais même pas qu'il y aurait deux anthologistes, donc ces personnages se sont mis là. C'est fantastique.
Qu'espérez-vous avec cette anthologie, Anthony et Vincent? Susciter de nouvelles vocations ou se dire bon voilà, on a fait ça, maintenant on en reste là, nous on continue à écrire de notre côté, ou bien est-ce que vous espérez que cela suscite un mouvement encore plus important de littérature de science-fiction en Suisse?
Alors je crois qu'un de nos envies c'était vraiment de faire une sorte d'état des lieux de ce qui se passait sur le moment depuis 3-4 ans en Suisse romande, où on a effectivement beaucoup de jeunes écrivains qui, avec les réunions, les mercredis de la science-fiction et tout ça, qui écrivent chacun dans leur coin, et on voulait effectivement faire une anthologie, faire une sorte d'état des lieux, de montrer un peu le talent de tout le monde, et de faire connaître tout ça, en fait. Et ce qui nous plaît, c'est qu'on commence à avoir 2-3 papiers dans la presse régionale suisse-romande, et donc notre livre rencontre un certain écho et il se vend relativement bien en librairie en ce moment, et donc je crois que ça c'est une chose qu'on voulait faire aussi, c'est effectivement faire connaître ces jeunes auteurs et montrer aussi que on pouvait trouver de la bonne science-fiction en Suisse-Romande et que la science-fiction n'est pas forcément un sous-genre ou quelque chose comme ça, mais qu'on peut faire de bons récits avec des personnages, avec des intrigues et dans ce genre-là. Et on a aussi réuni quelques nouvelles de fantastique pour montrer aussi que le fantastique, enfin, on peut encore en écrire aujourd'hui et écrire du bon fantastique. Donc c'était notre ambition en fait en faisant cette anthologie. Alors je sais pas s'il y aura une nouvelle anthologie dans l'immédiat, enfin on verra bien, mais je pense que là c'est un état des lieux qui nous permettra d'avancer peut-être chacun de notre côté à l'avenir.
Et de donner aux différents auteurs de cette anthologie des débouchés plus faciles peut-être.
Ça, c'est une question difficile. Ça donne une visibilité dans le cadre d'un, peut-être d'un petit milieu comme celui de la science-fiction francophone, peut-être, je sais pas. La plupart des personnes ont déjà publié des textes, par ailleurs. Certains en sont à leur première publication. C'est, peut-être. Ça, c'est très difficile à quantifier. Ouais. J'avais envie de parler un peu de l'éditeur, mais je sais même pas si c'est... Si c'est pertinent, puisque c'est aussi un petit éditeur qui se diffuse essentiellement dans le milieu. Donc, au fond, ça donne une reconnaissance dans le milieu des personnes qui en lisent de façon frénétique et puis qui en écrivent et qui aiment en parler. Maintenant, quelqu'un qui de toute façon a une ambition littéraire, peut-être l'un des interlocuteurs au fond. Parce que trouver une tribune, après coup, c'est l'eau de chacun, quoi. Trouver d'aller dans un festival, rencontrer un éditeur, montrer ce qu'on fait, s'améliorer, écrire, et une bonne partie chez soi.
Je vais peut-être ajouter quelque chose, c'est qu'on a aussi fait un travail avec les auteurs, c'est-à-dire qu'on les a pris, on a passé quelques heures avec certains d'entre eux à discuter de leur texte, à voir vraiment au fond du texte comment les choses étaient faites, ce qui pouvait être améliorer l'effet qu'ils ont voulu produire eux et qu'on gardait. Enfin, il y a tout un travail de dialogue entre eux et nous qui peut-être aussi sera profitable pour l'avenir aussi pour leur production et aussi pour notre production à nous en fait. Où maintenant, moi, je ne peux plus lire une anthologie avec le même regard qu'avant d'avoir fait cette anthologie. Maintenant, je guette les coquilles, enfin des choses toutes bêtes. Mais je me dis ah tiens cette nouvelle. C'est intéressant, je l'aurais pas construite comme ça, j'aurais fait telle remarque ou des choses comme ça, ce que je ne faisais pas du tout avant, en fait. En tout cas, personnellement, ça m'a apporté un autre regard maintenant sur la pratique de l'écriture et comment ça se passe de l'autre côté du miroir, en fait, dans le monde de l'édition.
Sébastien, est-ce que cette anthologie et votre participation va changer quelque chose pour vous?
Je suis censé répondre oui, je suppose.
Non. Répondez ce que vous voulez.
Ouais, disons.
On peut pas tout dévoiler.
Je pense pas, disons pas directement. C'est plutôt que ça va. Effectivement, ça nous a entraîné une fois de plus à travailler avec un éditeur, quelqu'un qui revoit nos textes et tout ça. Donc ça, c'est toujours quelque chose qu'on entraîne entre nous dans nos cercles d'écriture, mais qui est toujours intéressant de faire dans un milieu plus éditorial, c'est-à-dire avec quelqu'un qui vraiment a une autorité sur le texte. D'autre part, oui, peut-être que ça offre une certaine visibilité dans le milieu. Effectivement, ça reste probablement cotonné au milieu, mais c'est une porte ouverte vers d'autres recueils qui vont paraître avec nos textes. Je saurais pas ajouter d'effet immédiat à ça, mais...
Par exemple, Laurence, est-ce que après ceci, vous pouvez espérer pouvoir publier les romans que vous avez déjà écrits?
Bon, disons que j'ai déjà commencé. Disons que peut-être que ça permet de voir la diversité de ce que je fais en fait en nouvelles. Mais c'est vrai que un roman, disons que c'est aussi un travail qui se fait à côté, c'est-à-dire tout ce travail de recherche, justement de correction, etc. C'est quelque chose qui, de toute façon, se fait. Disons que. Mais en plus des nouvelles, je veux dire, c'est un autre boulot encore, quoi. C'est encore quelque chose d'autre. Mais c'est vrai que ça permet, par exemple, quand on rencontre des gens, de dire voilà, j'écris ça, dans un style différent, ça permet de faire connaître les différentes facettes d'un auteur. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là, voilà.
Quoi. On peut continuer son micro, peut-être. Mais quel est le statut de la science-fiction en Suisse même? Je veux dire, en dehors de ce cercle de gens qui s'y connaissent, quel est le statut de la science-fiction? Pour les médias, pour la population, est-ce qu'on en vend beaucoup, etc.
Ouais, c'est exactement le même statut qu'en France ou qu'en Belgique, j'imagine. C'est-à-dire que c'est une littérature qui a toujours de la peine à avoir droit de citer, semble-t-il. Quoique, récemment, on vient de me demander de faire partie du comité de rédaction d'un journal littéraire qui s'appelle Le Passe-Muraille. C'est le dernier journal littéraire suisse romand. Tous les autres ont disparu. Mais je trouve intéressant parce que c'est eux qui sont venus me chercher. Donc, ils ont envie de parler de science-fiction et de littérature de l'imaginaire. Donc, depuis 2 ans à peu près, je commence à pouvoir publier des articles là-dedans. Et,
Et visiblement, c'est intéressant. Hein. Oui.
Alors justement, à ce sujet, j'ai aussi quelque chose à rajouter. C'est qu'il y a un éditeur qui s'appelle Encre Fraîche, qui est un éditeur suisse, et qui m'a récemment demandé, avec un autre Vincent, Vincent Gerbert, qui écrit aussi des nouvelles, de s'occuper de la commission littéraire pour les auteurs, pour les ouvrages de science-fiction et de fantastique, ce qui n'existait pas jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'avant, ils recevaient toutes sortes de manuscrits de littérature générale, et maintenant, il y a une collection, entre guillemets, spécifique à la science-fiction, fantastique et aussi heroic fantasy, qui va être ouverte, et c'est très récent, Ça date d'un mois à peu près. Donc effectivement, il y a, du point de vue des éditeurs suisses, il y a aussi quelque chose qui se passe à cette échelle.
Je veux aussi ajouter qu'au niveau des libraires aussi, il y a maintenant un engouement. Ils remarquent qu'il y a des choses qui sortent, et puis les libraires maintenant sont demandeurs. Ils sont contents de voir qu'il y a une actualité régionale, mais qui transgresse cette idée de frontière aussi avec la science-fiction, avec des mondes qui sont pas censés avoir de frontières.
Moi, je dirais encore une chose, c'est que il me semble qu'actuellement, et le fait que j'ai pu publier ce bouquin chez un éditeur littéraire le montre, me semble-t-il, c'est que la littérature commence à s'intéresser à la science-fiction et au fantastique et à la fantasy, probablement parce qu'il y a des tas de gens plus jeunes que nous qui sont arrivés, qui sont nés et qui ont avec les jeux de rôle et tout ça, quoi. J'entends cet imaginaire, qu'il soit au cinéma, partout, ils ont été élevés avec ça, en quelque sorte. Et c'est en train de changer, il me semble.
François, je voulais juste ajouter, peut-être en dehors du milieu strict de l'édition, faut quand même pas oublier que la maison d'ailleurs a quand même un rayonnement vraiment assez grand dans la Suisse romande, donc, il y a tout le temps, il y a souvent la présence de Patrick Guiguer dans les médias, on peut avoir des affiches pour leurs expositions, elles sont quand même presque omniprésentes dès qu'on parle un petit peu de science et de fiction, ou en tout cas de littérature, l'imaginaire. C'est quand même une présence qui se fait, je trouve, sentir sous-jacente dans les médias ou dans le populaire, donc ça reste quelque chose qui rayonne de manière significative, peut-être qui n'existe pas forcément dans la France, sachant qu'il n'y a pas... c'est pas un pôle aussi fort dans un enclos aussi petit que la Suisse romande.
Et François, qui connaît bien depuis longtemps la science-fiction suisse.
Je voulais peut-être donner deux sortes d'informations. Tout d'abord, la première, c'est que cette anthologie, finalement, de science-fiction suisse n'est pas... Ces deux anthologies ne sont pas les deux anthologies uniques. Hein. Il y en a eu cinq en tout, sauf erreur, d'anthologies de science-fiction consacré à des auteurs suisses romans. Précisons bien, parce qu'on a toujours parlé de science-fiction suisse, mais je crois qu'on l'a pas dit, ce sont uniquement les Suisses d'expression française dans ces anthologies. Alors ces deux-là sont les deux dernières, mais il y a eu trois anthologies avant qui ont été proposées, entre autres en collaboration avec la revue Imagine, une revue universitaire suisse et une initiative de quelques mordus dans les années 80. Ça, c'est pour dire une chose. Et puis l'autre chose que je voulais signaler, c'est qu'en dehors de la maison d'ailleurs, qui bien sûr fait rayonner la science-fiction au niveau des médias, au niveau du public, etc., il y a des activités, des initiatives qui ont été prises en Suisse et puis qui sont peut-être assez originales. Je pense en particulier à l'expérience, je peux appeler ça expérience, quoique maintenant le côté expérience se confirme par un vécu, c'est la revue, le podcast Utopod de Lucas Moreno, qui fait énormément pour le rayonnement de la science-fiction. Je pense également à un certain nombre d'ateliers d'écriture qui se sont mis en place et qui sont encore très dynamiques pour certains auteurs. Peut-être que Lucas peut en dire quelque chose de plus. Il y a ainsi des initiatives qui de temps en temps se cristallisent. Alors parfois c'est une anthologie, parfois on a parlé de cette exposition Lovecraft à la maison d'ailleurs. Là, ça avait cristallisé tout un milieu du monde du visuel, hein, des graphistes, des infographistes, des dessinateurs et beaucoup de gens qui faisaient pas nécessairement dans la science-fiction. Mais pour vous donner une idée de la façon dont cette exposition s'est mise en place, il y avait l'idée, c'était de reprendre un carnet de notes de Lovecraft où il avait simplement mis quelques idées comme ça sur le papier. Et On n'est bien pas dans le domaine littéraire, mais le domaine graphique, mais c'était pour vous donner des chiffres. Il y avait, sur cette idée-là, des illustrateurs du monde de l'art ou de l'illustration ou de la photographie ou de l'infographie, etc., étaient invités à illustrer ces phrases de Lovecraft. Et pour cette exposition-là, bon, il y a eu pas mal de gens de l'extérieur de la Suisse, mais ça a quand même motivé une cinquantaine d'artistes, et puis pour un total de 500 œuvres. Donc c'était qui ont été exposées, sans parler de celles qui ont été refusées. Mais je veux dire, voilà, toute une émulation qui peut rapidement se mettre en place, et je crois que ce territoire-là est propice à ce genre d'initiative. Et il peut encore en venir d'autres. Alors, qu'est-ce qui se fera après? On peut imaginer toutes sortes de choses. Il y a des projets dans l'air, de revues sur Internet. On n'en dira pas plus.
Oui, en fait... avant de parler de ça, moi je voulais parler pour rebondir sur ce qu'a dit François, des ateliers d'écriture, je crois qu'il l'a mentionné. On parlait tout à l'heure de la spécificité de la science-fiction suisse. Alors ça, je ne saurais le dire, je pense qu'il n'y en a pas au niveau des thématiques, mais peut-être au niveau de la création elle-même et de l'écriture à proprement parler, la spécificité réside dans le fait qu'on n'a pas du tout de structure éditoriale consacrée aux littératures dites de l'imaginaire. Donc en fait, on est un peu en roue libre, on vole de nos propres ailes. Évidemment, de temps en temps, il y a certains auteurs qui publient dans des revues ou dans des anthologies en France, principalement parfois au Québec. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous-mêmes, à partir de 2002, je crois c'est parti des mercredis de la science-fiction de Genève que Vincent avait lancé. Il y a eu une véritable effervescence qui a eu lieu en Suisse romande. Il y a pas mal de jeunes auteurs qui ont démontré une forte envie d'écrire de la science-fiction. Et puis on a tous commencé ensemble, on s'est tous formés ensemble, et on s'est doté de structures, d'ateliers d'écriture qui, on pourrait plutôt dire, de groupes d'écriture fortement inspirés des ateliers Clarion, les fameux ateliers Clarion américains qui ont vu sortir des auteurs comme Kim, Stanley Robinson, et puis enfin une série d'auteurs longs comme le bras. C'est-à-dire qu'en termes d'exigence des critiques, on s'est doté de cette structure-là qui nous permettait, nous, en vase clos, d'écrire, c'est-à-dire le travail se fait en amont. C'est pas un atelier d'écriture où on écrit tous ensemble. Le travail se fait en amont, l'auteur a le temps de faire sa production. Et ensuite, une fois qu'on a fini, qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes, on donne ça à un parterre de personnes qui vont vraiment décortiquer ça, aller dans le détail, on met la barre très 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 haut. Et il y a notamment un groupe dont je fais partie qui s'appelle le CREP, le Club Roman d'écriture permanente. Et on est très anglo-saxon dans la démarche, dans la mesure où au niveau quantitatif et qualitatif, on met la barre assez haut. Il y a la régularité, l'aspect de la régularité qui est important pour nous. Donc ça nous permet, nous tous, de nous mettre ensemble, de produire, et puis de se critiquer les textes entre nous. Et ça, artificiellement, ça reproduit un petit peu le regard extérieur que pourrait avoir un éditeur, parce que quand on est tout seul face à son texte, évidemment, on n'a pas ce regard-là. Voilà ce que j'avais à dire par rapport aux ateliers.
J'aimerais juste dire... que c'est pas anodin, effectivement, puisqu'il y a, je crois, 5 des auteurs dans l'anthologie. Donc je rappelle, c'était anonyme, on savait pas de qui on choisissait les textes, et on a retenu 5 sur les 13 présents qui ont fréquenté ou qui fréquentent encore ce club d'écriture. Ça veut dire qu'il produit vraisemblablement des résultats.
Utopode?
Ah oui, alors Utopode, pour les gens qui connaissent pas, donc c'est un podcast. J'ai l'habitude de dire qu'en fait c'est une émission de radio disponible sur Internet. En gros, un podcast c'est ça. Ça peut être vidéo aussi. Ce sont des lectures de textes relevant des littératures d'imaginaire mis à disposition gratuitement sur Internet une fois par mois depuis début 2007. Et c'est francophone. C'est-à-dire pour moi, je suis tout seul dans ce projet, donc je suis l'éditeur, le producteur, le monteur, enfin tout, je fais tout quoi. C'est totalement gratuit. Parfois j'ai des fonds, j'essaie de rémunérer mes auteurs, j'essaie de rémunérer mes comédiens professionnels, étant donné que je travaille quasi exclusivement avec des comédiens professionnels. Je travaille beaucoup avec Sylvain, qui en plus d'être écrivain, musicien, illustrateur et un conteur et un lecteur d'immense talent. Et puis qui me fait la gentillesse de travailler avec moi, de collaborer. Et il est aussi ingénieur du son, donc c'est super. Je lui envoie un texte, je flash sur un texte. Ah oui, d'abord il y a un travail éditorial avec l'auteur. Donc même quand c'est des rééditions, je fais un travail d'adaptation pour l'audio. Et quand c'est des inédits, je fais un travail éditorial comme n'importe quel éditeur. Ensuite, je donne le texte à Sylvain notamment, qui en fait la lecture, mais qui fait ensuite tout le montage, toute la partie technique, il s'occupe de tout. Il me donne un produit clé en main. Il me livre un fichier MP3 qui est déjà complètement nickel, quoi, peaufiné. Et donc voilà, c'est une fois par mois, c'est gratuit, c'est disponible sur Internet.
Mais ce n'est pas que Suisse.
Ce n'est pas du tout que Suisse. Non, il y a beaucoup de... Il y a pas de Belges encore, mais il y a beaucoup d'auteurs québécois qui ont été publiés sur Utopod, pas mal d'auteurs suisses. Les Français, quand ils sont gentils de temps en temps, je leur donne leur chance. Mais non, vraiment, il y a tout, quoi. Il y a des Français, des Suisses, des Québécois, et puis ben, c'est juste voilà, des textes francophones. Donc quand ça me plaît...
Tu as une statistique de combien de textes tu as déjà...
Alors, on en est 41 épisodes, ça donne quoi ? Peut-être une trentaine de textes, parce que parfois les nouvelles sont longues, donc je les diffuse en deux fois, en deux épisodes. En termes de chiffres, ça donne 3400 écoutes et téléchargements en moyenne par épisode. J'en suis à 150 000 téléchargements et écoutes en tout, quoi, globalement, depuis le début de l'émission. Et puis, le plus gros pic, c'est un texte de Philippe Curval, qui en est à 5000 et quelques écoutes, quoi. Donc ça, c'est pour donner les chiffres. Donc là, quelque part, on se situe déjà ouais, plus haut que le papier, quoi. C'est totalement différent, évidemment, comme méthode de diffusion, mais c'est juste pour faire une comparaison, et ça peut être intéressant, justement, d'être sur Internet, tout simplement, parce que ça permet d'avoir une diffusion plus large, quoi. Et là, je fais des recherches de fond, mon but étant de rémunérer vraiment les comédiens professionnels de manière professionnelle, et puis les auteurs aussi. Donc voilà.
Encore au sujet de cette anthologie Dimension Suisse, j'ai été étonné par le peu de textes qui ont un rapport avec la fantasy. Or, c'est la fantasy qui, aujourd'hui, est le haut du panier. C'est pas le haut du panier, mais c'est ce qui se vend le plus. Comment ça se fait ?
Bon. On en a eu reçu, mais ils ont été refusés. Pas à cause du genre, on les aurait volontiers publiés, mais parce qu'ils ne correspondaient pas à nos critères. Donc on était ouvert à l'idée de recevoir des textes de fantasy, pas de problème. Pour autant qu'ils soient bien écrits, qu'ils soient cohérents, non. Pas à mon sens. Non, il disait, il y en a presque un. mais pas pour moi. Mais au fond, non, c'était pas une volonté. Bon, je verrais peut-être deux raisons à ça. Une qui tient peut-être au milieu dans lequel s'est diffusé l'appel à texte, qui est clairement des gens plus intéressés par le fantastique et la science-fiction. Et d'autre part, que ceux qui s'intéressent à la fantasy, étonnamment, écrivent des longs bouquins et qui sont pas finis pour la plupart des gens que je connais qui ont ce genre de projet en route et qui écrivent pas des nouvelles. Donc, il y avait une ou deux nouvelles qui s'inséraient dans un monde comme ça, mais qui n'avaient pas vraiment de... Enfin, voilà, nous, ça, on n'a pas percuté avec ça. On n'avait pas reçu beaucoup.
Il y a des anthos de fantasy. Hein. La preuve, c'est l'anthologie des imaginales. Donc, il y a certainement des écrivains pour ça. Mais peut-être qu'en Suisse, il y a moins d'écrivains de fantasy, en fin de compte.
Ouais, peut-être pas, faut attendre 5 à 10 ans pour voir si les gens qui ont des projets en cours les publient ou pas.
Voilà, une romancière de fantasy, Florence Cochet, qui a publié un roman. Mais c'est tout ce à quoi je pense.
Est-ce que les gens dans la salle ont envie de poser l'une ou l'autre question ? Je vois que tout est clair.
Moi, j'aimerais rajouter un mot sur l'éditeur.
Avec plaisir.
Parce que, bon, la question qui se posait, c'était est-ce que c'est vraiment pertinent de faire une anthologie sur la Suisse ? J'entends, au fond, pourquoi faire une anthologie sur quelque chose de national, une entité politique, si on ne demande pas aux auteurs d'écrire sur la Suisse et les enjeux ? Il n'y avait pas de thème, hein, c'était ouvert, chacun voyait le texte qu'il voulait sur le sujet qu'il voulait, hormis la contrainte d'un genre de l'imaginaire. Et pourquoi alors faire quelque chose dimension suisse ? Ben, hormis que c'était un petit peu le projet à la base, donc on l'a repris comme ça, pour moi c'était important que c'est du sens, qu'on fasse pas juste une anthologie pour faire une anthologie, puis on dit ah ben c'est suisse parce que ben voilà parce qu'on est suisse, puis on est bassement chauvin, hein, parce que sinon on pourrait faire une anthologie dimension France, dimension Portugal, dimension bon, d'ailleurs je crois que ça existe, oui, on fait dimension Espagne. Non, mais on peut faire ça, c'est un exercice. Alors voilà, donc c'est intéressant dans le cadre d'une collection qui fait ça, parce que cet éditeur a une collection dimension où ils explorent par pays des récits de science-fiction. Alors là, je trouve que ça prend son sens, parce qu'on peut après s'amuser à comparer, à faire un travail qui peut s'apparenter à un travail universitaire. Ça laisse aussi un état des lieux, comme disait Anthony. Et là, ça a du sens. J'aurais vu un peu moins de sens à cet exercice en dehors de cette collection qui parcourt des pays. Donc voilà, c'est important de souligner ça. On s'inscrit dans une collection plus large, Dimension, qui est proposée par Rivière Blanche et qui explore différentes aires géographiques.
Mais voilà.
Je peux poser une question, parce que je le disais à Jean-François tout à l'heure, la Suisse est un pays où il y a eu la plus longue émission de théâtre radiophonique de science-fiction. Les passeports pour l'inconnu de Pierre Versin, qui a duré presque 20 ans. Est-ce que ça a pu avoir une influence sur les auteurs présents, ou est-ce qu'ils étaient beaucoup trop jeunes pour l'avoir entendu?
Bon, je réponds très vite. Je connaissais pas cette émission, je n'ai jamais écouté, et peut-être pour les raisons que vous évoquez.
Alors, peut-être pas cette émission-là a eu de l'influence, mais la Maison d'ailleurs a quand même eu de l'influence. Moi, quand j'avais 18 ans, je suis à la Maison d'ailleurs, un peu comme tout le monde, comme jeune homme, je suis allé à l'université à Lausanne, puis on m'a dit qu'il y avait un musée de la science-fiction, je suis allé, donc je suis entré en contact avec François, Jean-François, et puis finalement c'est un point de fixation, la Maison d'ailleurs, où on y retourne, etc. Et ça finit par faire une continuité historique quand même en Suisse romande. Et peut-être c'est ça qui fait que finalement, aujourd'hui, il y a une floraison de jeunes écrivains, mais le repus produit il y a 5 ans ou dans 10 ans, mais c'est la Maison d'ailleurs qui est une sorte de continuité et de point de fixation, qui fait qu'il y a toujours finalement des gens amateurs de ça qui se réunissent, qui se voient, où il se passe toujours quelque chose autour de ce thème. Et l'émission radiophonique, je dois avouer que je ne l'ai pas non plus entendue.
Pour cause, parce que cette émission, elle a été diffusée pendant, je crois, une quinzaine d'années en tout cas. Alors moi, je me souviens très bien, vieux de la vieille, j'écoutais évidemment cette émission. Et après, on s'est intéressé à cette émission, à savoir s'il était possible de retrouver ces enregistrements. Et malheureusement, la plupart des enregistrements ne sont plus disponibles, ils ont été détruits. Donc, on a plus matériel. Est-ce que tu sais, Pascal Ducommun, qui est... Oui, mais c'est ça. C'est ça. C'est que c'était celle qu'on a enregistrée à l'époque.
Il enregistrait lui-même à la radio.
Ouais.
La radio a perdu beaucoup d'archives, notamment dans un incendie.
Ouais.
Voilà.
Versin avait fait un...
Voilà, ouais.
Mais c'était un travail admirable. C'était de nombreux classiques de la science-fiction sous forme de nouvelles ou sous forme d'adaptation de nouvelles avaient été faites à l'époque. Et c'était des pièces radiophoniques jouées par plusieurs acteurs. C'était vraiment très très bien fait. C'était pas uniquement des lectures de textes. Il y a vraiment une mise en scène. Et quand Lucas a lancé Utopod, on s'est demandé si c'était peut-être possible de récupérer l'un ou l'autre de ces textes, etc. Ouais, mais il semblerait qu'on ait perdu ce matériel.
Voilà, je voulais simplement dire que
ouais.
voilà ce que peut apporter la technologie, justement, pour rebondir sur la table ronde qui a eu lieu ici même avec Alain Damasio tout à l'heure. C'est pas que le mal, le grand méchant loup. Là, notamment, c'est clair, à l'époque, il n'y avait pas de podcast, on pouvait rien faire. Voilà une des belles choses que peut apporter le podcast, quoi. Parce que c'est vrai que, qu'on soit sur son propre serveur ou sur des serveurs dédiés au podcast comme Podomatic, je crois que les Lyon de la SF, c'est ça qu'elles utilisent, le fichier reste sur Internet. Il y a un effet de contamination aussi qui est voulu, qui est désiré. CF Cory Doctorow avec le partage sur Internet, la licence Creative Commons et tout, je vais pas refaire toute l'histoire. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui, non seulement elles sont disponibles partout et puis il faut faire avec, mais c'était le but, quoi. Donc là, vraiment, ça SM, et moi, je sais que Utopod... Moi, je garde même pas les fichiers Wave, quoi, parce que je sais que les gens vont les écouter sous forme de MP3, parce que ça prend moins de place sur Internet, et que même si mon ordi grille ce soir, j'ai rien perdu du tout, quoi. Je vais le retrouver très, très, très facilement.
Eh bien, on termine avec cette technologie nouvelle. Et à une prochaine dimension, non, Jean-François Thomas?
Je dirais encore un mot. Finalement, je remarque la présence de Pierre Versin un peu partout. Je rappellerai que peut-être la science-fiction suisse existe grâce à Pierre Versin, qui était français.
Merci à vous. Merci à tout le monde. Alors, on me prie d'annoncer une séance de dédicaces.
des auteurs, des anthologistes, de tout le monde dans la bulle.
Dans le carton. Salut, tu vas bien ?